c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret livré sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous nous écoutez en ce beau dimanche 10 janvier, enfin beau je ne sais pas puisque c'est une émission préenregistrée, mais j'espère que c'est une belle journée. Et c'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter la bonne année, plein de bonheur, plein de succès, que vos rêves deviennent réalité et tout ça. En tout cas je vous souhaite le meilleur si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Nouvel épisode donc, nouveau livre et même nouveau genre dans cette émission. Jusqu'ici, on a parlé de romans, on a parlé de théâtre, de nouvelles et de mémoires. Mais il y a un genre, il y en a plusieurs, mais un qu'on n'a pas encore discuté. Et c'est un genre littéraire spécifique, un genre qui se rapproche un peu du journalisme, un genre super, il s'agit des livres sportifs. Alors ce n'est pas un nom déposé à l'Académie française, je ne sais même pas si c'est en usage en France, mais en tout cas le livre sportif ça désigne tout simplement un bouquin qui parle de sport, c'est comme ça que je le comprends. En l'occurrence, un bouquin aujourd'hui qui parle du sport que je préfère parmi tous les sports. Un sport où les performances physiques seules ne vous mèneront pas très loin, et peut-être encore moins loin que dans beaucoup d'autres disciplines sportives. Un sport qui parle d'humanité autant que de compétition, un sport qui peut durer des heures, mais où tout se joue en quelques instants. Un sport magnifique, un sport merveilleux, j'ai nommé... le tennis. Et oui, le tennis, mon sport préféré. Le livre d'aujourd'hui s'intitule en anglais Strokes of Genius. Il a été écrit par le journaliste sportif John Wertheim et a été publié en 2009. Le titre, en l'état, ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais sa traduction française est plus évocatrice, elle, puisque les éditeurs ont choisi d'intituler ce livre en français Federer contre Nadal. Là, comme ça, c'est tout de suite plus clair, puisque le point de départ est le suivant. Wertheim se penche sur la rencontre entre le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal, joueurs professionnels de tennis, qui se sont affrontés lors de la finale du tournoi britannique de Wimbledon en 2008. Le sous-titre du livre est, humblement, « Federer, Nadal et le meilleur match jamais joué ». Excellent programme donc, vous en conviendrez. La rencontre en effet est historique, à bien des égards. Roger Federer, alors âgé de 27 ans, est numéro 1 mondial. Il occupe cette place depuis 2004. Il est à noter d'ailleurs qu'il détient le record, à l'heure d'aujourd'hui, encore indépassé, du plus grand nombre de semaines consécutives passées à la première place du sport, avec un total de 237 semaines en tant que numéro 1. Il est donc numéro 1 mondial et surtout il a gagné Wimbledon en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007. 5 titres consécutifs du Grand Chelem, un exploit rarement égalé dans le tennis masculin. Il est chez lui sur le gazon anglais car oui, Wimbledon se dispute sur gazon ou sur herbe comme vous préférez, à l'inverse par exemple de Roland-Garros, que vous connaissez sans doute même si vous ne suivez pas le tennis puisque c'est à Paris. Roland, c'est sur terre battue, la terre ocre, vous savez, celle qui s'agrippe aux semelles des joueurs et qui teint leurs chaussettes blanches d'une couleur orangée en fin de match. Les deux autres grands chelems sont joués sur surface synthétique, il s'agit de l'US Open et de l'Open d'Australie. En face du Suisse, le non moins impressionnant Rafael Nadal, il a 22 ans. Nadal n'a pas encore, lui, le palmarès de son adversaire, il est passé pro plus tard, mais il est en bonne voie. Son premier titre du Grand Chelem donc, c'est-à-dire l'un des 4 grands tournois du tennis, eh bien il l'a obtenu 2 ans plus tôt, sur terre parisienne, cette terre ocre dont je vous parlais à l'instant, remportant Roland-Garros lors de sa première participation. De son côté aussi donc, on compte quelques exploits. Le plus récent en date, à l'heure où se joue le match, c'est sa victoire sur Federer lui-même, à Roland, quelques semaines avant le début de Wimbledon. On est alors en juin 2008, et l'Espagnol inflige une raclée à son rival suisse. L'équilibre, jusque-là en faveur de Federer, est en train de virer, et il le sent. Alors le match, celui dont se préoccupe le livre, est un classique. Il dure 5-7, c'est-à-dire la longueur maximale qu'on puisse atteindre au tennis masculin, et couvre 4h et 48 minutes de jeu. La partie, jouée sur un court extérieur, s'achève presque dans le noir. Elle est interrompue par la pluie, deux fois. Elle a donc tous les éléments d'un grand spectacle. Au début, c'est l'Espagnol qui mène, il remporte d'entrée de jeu 2 sets, le menant donc à un seul set de la victoire et du titre, un titre qu'il convoite depuis qu'il est enfant, depuis qu'il sait tenir une raquette. Mais Federer se ressaisit à temps et fait un sublime comeback, égalisant à 2 sets partout. Pour rappel, au tennis masculin, il faut gagner 3 sets pour remporter la partie. C'est donc au 5e et dernier set que le match doit trouver une issue. Alors si vous suivez le tennis, il y a de grandes chances que vous ayez vu ce match, ou que vous connaissiez la fin. Si vous l'avez suivi en live à l'époque, vous vous en rappelez sans doute. Si vous étiez à Wimbledon le 6 juillet 2008, alors vous avez de la chance. En revanche, si vous découvrez l'existence de ce grand chelem, voire du tennis tout entier, grâce à cette émission, eh bien je ne vais pas vous révéler l'issue du match tout de suite. Il faudra attendre la fin de l'histoire. Cette émission va donc parler de ce match, mais pas que. Elle parlera des joueurs, de Roger Federer et Rafael Nadal, de leur histoire, leur parcours, et puis on ira voir un peu du côté du passé aussi, des autres rencontres légendaires du sport par exemple. On s'attardera aussi sur ce qui fait battre le cœur du tennis et de ses fans, autrement dit, eh bien tout simplement, j'essaierai de vous convertir à mon sport préféré par le biais de ce livre qui est exceptionnellement bien écrit et que j'ai lu 3 fois, tout va bien. Cette émission sera en 2 parties. Aujourd'hui, épisode numéro 1 du Petit Duo, on fera un petit panorama du sport, un point sur le grand suisse, et ce sera le début du suspense. Au programme du prochain épisode, la suite, Rafael Nadal, le match, la résolution de cette grande énigme entre les deux joueurs, et puis comme toujours, des anecdotes historiques, en veux-tu, en voilà. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes dans Secret Livré sur Radio Campus Paris.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Grown old and rusty, burnt beneath.
Alors, je ne connais pas tous les sports, mais je pense que tous les fans d'une discipline sont capables de nommer une personne, une ou un athlète qu'ils considèrent comme la superstar du domaine. Le golf a par exemple eu Jack Nicklaus dans les années 60 et 70, puis a été illuminé par Tiger Woods, la gymnastique a Simone Biles, la natation a eu Michael Phelps, et notre Laure Manaudou national, le basket a eu Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, et vous connaissez la suite. Chaque époque amène bien sûr son lot de stars, car les carrières sportives sont réputées pour être courtes. Les pressions physiques que le corps doit endurer au niveau le plus élevé du jeu résultent la plupart du temps dans des soucis de santé variés. Les carrières des athlètes sont donc souvent jonchées d'opérations. Le temps de se remettre, d'autres sportifs ont le temps de monter au créneau, de les dépasser. Sharapova, la joueuse de tennis russe, par exemple, a eu plus de 10 services différents lors de sa carrière à cause de problèmes récurrents au dos et à l'épaule. Ce sont d'ailleurs des douleurs insupportables à l'épaule qui l'ont poussée à mettre fin à sa carrière professionnelle en février de l'année passée. Ajoutez à tout cela que les sports évoluent eux-mêmes. Un jour, quelqu'un fait sur le terrain ce que personne d'autre n'avait fait avant lui. Si ça ne marche pas, eh bien, c'est que l'idée n'était pas bonne, ou que le timing n'était pas bon, ou que l'exécution n'était pas à la hauteur, ou que, il faut en fait un alignement parfait des planètes pour qu'une tentative hors de l'ordinaire aboutisse au sport. Mais quand elle réussit, eh bien, le monde entier garde ses yeux rivés sur elle. Mais si Rome ne s'est pas faite en un jour, elle n'est pas seule, car les sports évoluent lentement. Au tennis, par exemple, les années 80 étaient marquées par un jeu dit « service volé ». En gros, au tennis, deux joueurs s'affrontent sur un terrain séparé en son milieu par un filet qui atteint en son milieu, lui, 91,4 cm de hauteur. En simple, c'est-à-dire en 1 contre 1, la configuration que vous connaissez peut-être tous et toutes le mieux, la surface à défendre par chaque joueur est donc un rectangle long de 11,89 m entre le filet et la ligne de fond de court, celle sur laquelle se fait le service de mise en jeu de la balle. Et ce rectangle est de 8,23 m de large précisément. Le but du jeu au tennis, c'est de mettre la balle dans le terrain en la frappant avec sa raquette, une raquette faite d'un manche couvert de ce qu'on appelle un grip, et d'un tamis ovale strié de cordes. Les joueurs ont le droit de mettre la balle n'importe où, dans les limites du terrain, et pour remporter le point, doivent forcer l'adversaire à faire une faute, c'est-à-dire mettre la balle hors du terrain ou dans le filet, ou bien lui envoyer une balle, et bien tout simplement impossible à rattraper. Sur le papier, le résultat est le même, le point est gagné. Mais dans les statistiques de match, on prend en compte la façon dont chaque point a été remporté ou perdu par les joueurs. Prenons l'exemple de la finale homme de l'US Open, un grand chelem, l'un des quatre tournois les plus importants du circuit tennistique sur l'année. Comme son nom l'indique, celui-ci est joué aux États-Unis. La dernière finale messieurs, celle de 2020 donc, a été disputée par les joueurs Alexandre Zverev et Dominic Thiem. Zverev et Thiem ont gagné respectivement 159 et 163 points au total. Zverev, en revanche, a fait 65 fautes directes contre 55 pour Thiem, soit 10 de plus. Les fautes directes, ce sont les fautes qu'on appelle non provoquées, c'est-à-dire, par exemple, on met trop de puissance dans un coup droit en voulant faire un coup gagnant. Si la balle sort du terrain, alors que le joueur était bien sur ses appuis, pas en bout de course par exemple, ni au filet, eh bien c'est une faute directe. Pareil si le joueur plante la balle dans le filet, on considère que c'est une faute directe. Zverev a donc plus de fautes directes que son adversaire, mais il a aussi plus de coups gagnants, 52 contre 43. Cette statistique concerne les balles parfaitement bien placées dans un angle, ou bien si rapides qu'elles volent sans que l'autre joueur n'ait pu la toucher. Les nombres nous indiquent en fait donc qui a pris le plus de risques, qui a été le plus agressif lors d'une partie, mais aussi qui a le mieux défendu. Pas évident de savoir donc qui a gagné seulement grâce à ces statistiques. Ça, c'est encore une autre histoire, car le système de points au tennis est un peu compliqué, mais bref, en résumé, il ne suffit pas au tennis de gagner plus de points, il faut gagner les points importants. Les points qui closent un jeu, par exemple, les points qui ponctuent un set, pas forcément ceux entre les deux, et pas forcément les points dans un jeu qu'on sait plus ou moins déjà perdu d'avance. Pour revenir au jeu de service volé, cette appellation désigne un jeu particulièrement affectionné dans les années 40 et puis jusqu'au tournant des années 2000 finalement, une très longue période. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à servir, et puis ensuite immédiatement courir vers le filet pour jouer une volée, c'est-à-dire frapper la balle avant qu'elle ne touche le sol, avant le rebond, le seul rebond autorisé au tennis. C'est un jeu très adapté aux surfaces dites rapides, comme par exemple le gazon ou le synthétique, car le serveur a l'avantage d'un service qui fuse, qui fonce tout droit et reste bas, et force l'adversaire à effectuer un retour réflexe. Souvent pris de court, et bien cet adversaire-là a moins de temps pour venir voir le coup d'après, surtout si ce coup d'après est joué au filet et donc ça lui donne encore moins de temps. A l'inverse, sur terre battue, la terre qui constitue le sol de Roland-Garros par exemple, le style n'a jamais été particulièrement prisé, car sur cette surface, la balle rebondit plus lentement, plus haut, laissant plus de temps au retourneur, entre guillemets, pour la placer judicieusement, lui laisser plus de temps pour anticiper si le serveur a déjà entamé une course vers l'avant, et peut-être lui permettre de mettre la balle pile là où ce serveur ne saura pas la renvoyer. Bon, ça s'appelle un passing. Bien que très populaire au siècle dernier, le style service volé n'était pas utilisé par tous les joueurs. Côté messieurs, dans les années 80, le monde entier a pris un immense plaisir à assister à de grands contrastes de style entre ce genre de joueurs et puis les autres, nommés globalement les joueurs de fond de court qui frappent la balle, comme leur nom l'indique, depuis la ligne de fond du terrain, la plus éloignée du filet donc. Ce fut le cas par exemple pendant les rencontres entre les champions Björn Borg, le Suédois surdoué, on en reparlera, et John McEnroe, l'Américain, on en reparlera aussi. McEnroe était le serveur volleyeur le plus aguerri, et il a été le seul à pousser le Suédois dans ses retranchements à une époque où il dominait intégralement le circuit du tennis. C'est pendant l'immensément célèbre finale de Wimbledon 1980 que leurs styles respectifs ont pu briller avec le plus d'intensité, l'Américain essayant de conclure les points au filet, tandis que le Suédois bataillait depuis la ligne de fond de court essayant de passer John. Ce fut un spectacle pour les yeux et pour l'âme, pour tous les amoureux du tennis.
Secret livré.
Alors comme je vous le disais, le sport évolue. Le service volé n'a pas duré jusqu'à l'éternité. En tant que style dominant, il a connu ses derniers instants au tournant du siècle, plus ou moins. Un des matchs cités comme raison de cette disparition, eh bien, c'est la finale messieurs de Wimbledon 1994, l'année de ma naissance, entre guillemets. Cette finale a été disputée entre Pete Sampras et Goran Ivanišević. Le match a duré 3 sets, avec un score final de 7-6, 7-6, 6-0 pour Sampras, l'américain, et sur les 31 jeux disputés, eh bien presque tous ont été décidés au filet. La partie, une finale de Grand Chelem tout de même, n'a donc pas été très enthousiasmante à regarder. Le premier échange à dépasser les 4 coups de raquette n'est arrivé qu'au 3e et dernier set. Bon. Le verdict n'est pas long à se faire entendre, il faut faire quelque chose, sinon le tennis n'aura plus aucun spectateur dans les gradins, et encore moins devant leur poste de télévision. Ce n'est tout simplement pas assez spectaculaire. Ce match Sampras-Ivanišević est extrême, bien sûr, ne représente pas toutes les rencontres de la fin du XXe, mais il n'en demeure pas moins que le sport a changé après cela. La Fédération internationale de tennis, par exemple, a décidé d'opérer certains changements. Parmi ceux-ci, on trouve le changement suivant, ou bien on a remplacé l'herbe à Wimbledon. Le seul grand chelem à être joué sur gazon, Wimbledon avait un sol réputé pour sa rapidité, composé d'un mélange de raygrass vivace à 70% et de 30% de creeping red fescue, en français fétuc rouge, mais bon, pas sûr que ce soit plus parlant. Et ces deux variétés de graminées ont été remplacées finalement par un unique sol, composé à 100% donc de raygrass. En latin, l'olium perenne, j'essaie de trouver des langues pour parler de ces sols, mais je ne suis pas sûre que ça n'évoque grand-chose à vos oreilles, pas plus en tout cas qu'aux miennes. Bref, le raygrass est plus sec, plus dur, et pousse la balle de façon plus verticale. Il donne donc à cette balle un rebond plus haut et ralentit considérablement le jeu. Tous les joueurs l'ont remarqué. Pour illustrer ce propos, eh bien un service voyageant en l'air à 202 km/h, ce qui est très rapide au tennis, ralentissait après impact avec l'herbe à une vitesse de 83 km/h en 2003. Ce même service à 202 km/h en l'air descendait jusqu'à 69 km/h, 5 ans plus tard, en 2008, après rebond, l'année du match légendaire entre Nadal et Federer dont il est question aujourd'hui. Mais la composition des sols à Wimbledon n'a pas été le seul vecteur du changement dans le tennis, bien sûr. Les raquettes, aussi, ont eu leur importance. Au bois des années 80, on préfère maintenant des ossatures composites, avec des alliages de carbone par exemple, et puis aux cordes de boyaux d'animal, on préfère maintenant un cordage en nylon. Je ne vais pas vous ennuyer avec les implications diverses de cette évolution de matériel, mais en résumé, comprenez ceci, les joueurs frappent plus fort, avec plus de contrôle, selon la taille du cadre et la tension des cordes bien sûr, et les coups eh bien, génèrent plus facilement de topspin, cet effet qui fait rebondir la balle plus haut après impact du côté de l'adversaire, avec plus d'effet. Le nouveau matériel décourage presque entièrement le service volé, car il est désormais beaucoup plus facile de faire un passing quand l'adversaire se projette en avant pour monter au filet. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy. Even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. My head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not forever. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy. Even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. It looks alright in the pictures. Getting caught tight for the trip though, isn't it? You could watch from your window. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy. Even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. And talk it up like, yeah. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Alors que vous suiviez ou non le tennis, vous avez sans doute déjà tous, toutes, entendu parler de Roger Federer. Le Suisse, qui a fêté ses 39 ans le 8 août dernier, est une célébrité qui dépasse les frontières de son sport. Exemple, la Suisse, sa contrée natale, a décidé en 2020 de frapper une pièce commémorative de 20 francs à son effigie, honneur d'habitude réservé aux personnalités qui ne sont plus en vie et encore moins en activité. Car 22 ans après être passé pro au tennis, eh bien Federer joue encore. Alors cette émission tombe un peu mal, bien sûr, car le Covid a impacté le tennis comme il a impacté le reste du monde. Les tournois ont été annulés, repoussés ou modifiés afin de permettre la reprise du sport dans le respect des règles sanitaires. Wimbledon 2020, du coup, par conséquent, n'a pas eu lieu. Federer n'a pas disputé Roland-Garros, qui s'est joué à l'automne au lieu de l'été, ni l'US Open. Et à l'heure où je vous parle, il a été annoncé qu'il ne disputerait pas non plus l'Open d'Australie, qui est le premier grand chelem du calendrier tennistique et qui a lieu chaque année en janvier à Melbourne. Mais l'espoir demeure qu'il dispute Wimbledon 2021, ce célèbre grand chelem anglais dont je n'arrête pas de parler depuis le début de cette émission. Roger aime particulièrement ce tournoi. Il l'a déjà remporté 8 fois. À titre de comparaison, Björn Borg, l'immense champion suédois considéré comme absolument indétrônable dans les années 70 et 80, eh bien lui en a remporté 5, alors tous consécutifs, c'est vrai, mais 5 seulement. Serena Williams, joueuse absolument dominante de ces 20 dernières années dans le tennis féminin, en a remporté, elle, 7. Federer a égalé le record de Björn Borg en étant sacré 5 fois de suite champion sur le gazon anglais entre 2003 et 2008. La seule personne ayant battu ce record est la joueuse d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova, qui remporte le chelem 6 fois entre 1982 et 1987, 6 titres sans interruption. Un vrai record. Federer adore Wimbledon et continue de jouer afin de pouvoir peut-être le gagner une dernière fois, mais il continue de jouer aussi parce qu'il est depuis quelques années maintenant en rivalité avec deux autres joueurs, les deux autres joueurs du Big Three, comme on l'appelle, le trio des meilleurs joueurs masculins du tennis, et qui sont donc lui, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Serbe, tous les trois plongés dans une course au plus grand nombre de titres du Grand Chelem. À l'heure qu'il est, Federer et Nadal en ont gagné chacun 20 et Djokovic 17. Je vous le rappelais, le nombre de titres du Grand Chelem compte énormément dans la balance finale, celle qu'on emploie afin de déterminer qui donc est le meilleur joueur de tous les temps. Bien sûr, ces débats ont des limites, j'en conviens, vous en convenez aussi, et pas simplement parce que les nombres seuls ne peuvent pas nous renseigner sur l'excellence ou non d'une carrière. Mais cette discussion a bien lieu, il faut le reconnaître, depuis quelques années, notamment depuis le début de la domination écrasante exercée par ce trio de joueurs donc, depuis le tournant des années 2000. Tous les connaisseurs s'accordent pour dire que l'époque est exceptionnelle. En ce sens, ces joueurs auraient pu se manquer, ne pas jouer à la même époque, mais par un heureux hasard, ou par cet impénétrable alignement des planètes, eh bien ils se disputent tous le même morceau de terre. « Quelle chance incroyable nous avons, affirme Navratilova, qui elle-même a été une grande championne, de vivre à une époque où la route de ces grands athlètes se croise. »
Oh,
Alors aujourd'hui, si l'on pense à Roger Federer, les mots suivants viennent immédiatement à l'esprit. Calme, élégance, talent, virtuosité. Il est considéré comme le joueur le plus artistique de sa génération, et si on souhaite emprunter au débat intergénérationnel, eh bien de tous les temps. Son style est un dialogue constant avec le passé, affirme le journaliste et écrivain William Skidalski. On y retrouve des éléments de Borg dans la rapidité de ses déplacements, d'Ivan Lendl dans son toucher de balle, mais aussi de Pete Sampras dans son service explosif. Federer est une de ces personnes qui a su digérer l'immense héritage d'un sport qui le précédait de plusieurs générations et qui a su se l'approprier. Son préparateur physique, Pierre Paganini, avec qui le joueur est très proche, explique d'ailleurs que selon lui, ce qui distingue Roger, c'est sa capacité à composer entre ce qu'il faut faire, je cite, et comment il est, lui. Il a su toujours être lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement imité les performances des champions de son enfance. Par exemple, au jeu de service volé, il a ajouté un coup droit plein de topspin, dont je vous parlais en début d'émission, faisant rebondir la balle plus haut, lui donnant plus de contrôle et d'effet. Il suffit de regarder un match de Federer pour se rendre compte de son immense talent. Il donne l'impression aux spectateurs que le tennis est facile, que ses coups sont évidents. Pierre Paganini, une fois encore, son préparateur physique, dit « Non, ce n'est pas parce que ça a l'air facile que ça l'est, c'est que Roger parvient à faire des coups incroyables. D'un point de vue technique, donc, c'est faux. Il suffit d'essayer de l'imiter, vous verrez vous-même. » Et deuxièmement, eh bien, ça n'a pas toujours été facile pour Roger lui-même. Doté dès la naissance d'un talent incroyable et d'une imagination sans bornes, le jeune Federer s'est imaginé très vite être un champion. Je voyais des matchs à la télé, avec Boris Becker, Lendl, Sampras à l'époque, c'était mes héros, dit-il. Je les regardais et je m'imaginais que je pouvais jouer comme eux. J'arrivais à l'entraînement, tout content, plein de confiance en moi, et puis je me rendais compte que c'était impossible. Je n'étais pas assez grand, je n'avais pas assez de force dans les bras, je ne courais pas assez vite, je ne comprenais tout simplement pas ce qui se passait. Alors, je me décourageais. Les gens qui l'entraînent à l'époque s'aperçoivent rapidement, bien sûr, que Federer est spécial. Il est, après tout, le joueur le plus jeune de sa classe. Mais son comportement ne leur échappe pas non plus. Aujourd'hui, le Suisse arrive sur chaque court de tennis avec le même visage, comme un masque. Au cours d'une partie, très rares sont les moments durant lesquels il exprime une quelconque frustration. Il en va de même pour les joueurs. Il peut parfois serrer le poing après un jeu remporté, ou il peut secouer la tête s'il perd son service, mais pas plus. C'est une qualité incroyablement difficile à acquérir dans le milieu du sport, comme dans tous les milieux. Il partage d'ailleurs cela avec Borg, dont le visage impassible excédait et fascinait John McEnroe, considéré, lui, comme le troublion du sport, toujours à crier, toujours à faire des scandales. Dans un film consacré à leur plus célèbre rencontre, on voit d'ailleurs un autre joueur, Vitas Gerulaitis, dire à McEnroe un soir, à propos de Borg, je cite, « On l'appelle l'homme de glace, mais je te jure, à l'intérieur, c'est un volcan. Ça boue, jusqu'à exploser. » Il y a encore aujourd'hui un débat sur les bienfaits des exutoires. Le tennis est un sport incroyablement solitaire. On y joue seul sur le terrain, avec l'interdiction de communiquer avec son coach. On y résout les problèmes seul, on y gagne seul et on y perd seul. En apparence, de l'extérieur, en tant que, par exemple, spectateur dans les gradins ou à la télé, on peut penser « Tiens, c'est bien joué, qu'est-ce qui joue bien ?» Ce à quoi on ne pense pas forcément, c'est la quantité astronomique de micro-problèmes, de micro-décisions prises en une fraction de seconde qui constituent ce qu'on appelle un beau jeu. En gros, le tennis, c'est un sport particulièrement dur psychologiquement. Gilles Simon, d'ailleurs, un joueur français, a d'ailleurs récemment publié un livre intitulé, je vous le donne en mille, « Ce sport qui rend fou ». Difficile de faire plus explicite. Afin de gérer le stress, certaines personnes se reposent donc sur des accès de colère. Pour reprendre mon exemple, John McEnroe a rendu cette technique très célèbre au cours de sa carrière, qui a été ponctuée par de nombreuses injures proférées à l'égard des arbitres et tout autant de raquettes fracassées contre le sol. Il n'en est pas fier, il ne s'en réjouit pas, ni maintenant, ni à l'époque. Il s'agissait pour lui de relâcher la pression, une pression insurmontable qu'il n'arrivait pas à régler d'une autre façon, mais pas de faire délibérément le pitre. Certains affirment que McEnroe jouait mieux quand il s'énervait d'ailleurs, juste après avoir envoyé par exemple voler une bouteille d'eau avec sa raquette. Dans le film dont je vous parlais, Borg vs McEnroe, Borg observe avec sa fiancée son rival à la télé qui est en train de disputer un match. Voyant John s'énerver, elle remarque « Aïe, il est en train de perdre le fil ». Mais Borg analyse la situation avec des yeux de champion de tennis et répond « Non. Au contraire, il se concentre. »
Secret livré.
Les psychologues sportifs, eux, sont critiques de ce genre d'attitude. Le but, eh bien, c'est Borg, c'est Federer. Mais même ces joueurs n'ont pas toujours été comme ça. En grandissant, les deux hommes que je viens de citer ont eu leur lot de crises sur les cours. Borg a été exclu du club où il s'entraînait en tant que jeune adolescent, en Suède. Federer, de son côté, faisait honte à ses parents quand il perdait son sang-froid sur le terrain. Son père se rappelle. On ne savait plus où se mettre. De nombreuses fois, il a fallu le menacer, lui dire qu'on allait arrêter de le suivre dans ses caprices. Sa mère, quant à elle, analyse les conséquences sur les matchs de façon assez fine. Je lui disais toujours qu'en piquant des crises, il envoyait un message fort à son adversaire. Je lui disais « Bah tu l'invites à te battre, tu lui dis « Bah moi, je suis d'humeur à me faire battre aujourd'hui. » Les coups de sang n'étaient jamais dirigés contre les adversaires de Federer. La colère était toujours contre ses propres failles. Il avait tellement de choses en lui, affirme Pierre Paganini. Tellement de choses à exprimer qu'il n'arrivait pas à mettre en pratique. Et quand un artiste n'arrive pas à s'exprimer, bien, il est malheureux. Alors, Federer travaille beaucoup. Il améliore sa forme physique et il se rend compte petit à petit qu'il renvoie des balles qu'il pensait irrattrapables, qu'il réussit des coups qu'il pensait impossibles. Il est le premier à dire, des années plus tard, « Ce que j'arrive à faire sur un court de tennis me surprend autant que vous. Je ne pensais jamais pouvoir exprimer tout ce que j'avais en moi, ni explorer le tennis de cette façon. » Le travail amène du succès au jeune Suisse, qui remporte le tournoi garçon de Wimbledon en 1998, la catégorie junior, si vous voulez, du vrai championnat. Le lendemain, il passe pro. Il a 17 ans. Soudain, beaucoup plus de caméras sont fixées sur le jeune prodige. Il n'est plus tout à fait à l'aise avec l'idée que des milliers, voire des millions de spectateurs puissent être témoins de ses frasques. Enfin, les conseils de ses parents, de ses coachs portent leurs fruits. Federer décide de changer d'attitude. Pendant plusieurs années, toutefois, les commentateurs s'accordent à dire qu'il contre-performe. Il progresse dans le classement et dans les tours des chelems, mais après 3 ans de carrière professionnelle, il est toujours sans titre. Il perd des matchs qu'il devrait gagner. Il n'est pas assez solide mentalement. Il est très dur avec lui-même. Il ne sait pas gagner sans être parfait. Au tennis, comme dans de nombreuses disciplines sportives, il faut savoir gagner quand on n'estime pas qu'on est en position de gagner. En gros, lorsque la stratégie A ne fonctionne pas, lorsque les conditions ne sont pas optimales, les planètes pas alignées, il faut trouver une façon de remporter la partie, même si ça a moins de gueule. C'est en partie ce qui différencie d'ailleurs les excellents joueurs des champions. Et Federer est un tel perfectionniste que pour le moment, il n'y arrive tout simplement pas. « Il fallait que je comprenne qui j'étais », affirme-t-il maintenant, avec le recul. « Je n'avais pas de style à moi. » Et puis quand l'heure de Wimbledon 2003 a sonné, j'ai senti qu'enfin, tous les éléments, les expérimentations, le travail, tout s'était enfin mis en place. Federer élimine sur le chemin de la finale 2003 le favori américain Andy Roddick en demi-finale, un exploit en soi, et il affronte donc, dans son dernier match, l'Australien Philippoussis, qu'il bat en 3-7. Pour rappel, les matchs de tennis masculin nécessitent de gagner au moins 3-7 pour remporter la victoire. Traduction, Federer a battu son adversaire sans perdre de temps. Un article du journal britannique The Guardian, datant du 7 juillet 2003, commence par cette phrase. Je cite « Le monde du tennis tout entier attendait que Roger Federer remporte un tournoi majeur depuis ses premiers pas sur le circuit pro il y a 4 ans. Peu de joueurs ont eu la chance d'être bénis d'un pareil talent, et hier, le Suisse de 21 ans, tête de série numéro 4 du tournoi, a remporté le plus grand titre qui soit avec un score final de 7-6, 6-2, 7-6 sur Marc Philippoussis. » Traduction, Federer avait enfin prouvé qu'il n'était pas que potentiel. Il était devenu champion d'un grand chelem. Plus bas dans l'article, on peut lire la citation suivante de Roger lui-même. « Il y avait de la pression de tous les côtés. C'est un immense soulagement d'avoir gagné. J'espère juste que ce ne sera pas mon seul titre. » Spoiler, ce ne sera pas son seul titre. Il en gagnera encore 19 dans sa carrière, et encore, elle n'est pas finie. On remarque d'ailleurs le choix des mots à l'époque. Federer ne parle pas de joie, de bonheur ni de fierté. Sa victoire lui procure, dit-il, un immense soulagement. C'est souvent le cas avec les joueurs très doués. On s'attend à ce qu'ils gagnent, et finalement, quand ils y parviennent, c'est comme si ils achevaient le potentiel qu'on leur avait toujours prédit. La victoire en poche, le plus important en fait, c'est de pouvoir enfin souffler.
Secret livré.
Ce fut le cas pour le Britannique Andy Murray, qui remporta le tournoi de Wimbledon, à domicile donc en 2013. Depuis Fred Perry, aucun Britannique n'avait remporté le prestigieux tournoi et la pression était immense. La presse s'interroge à haute voix à l'époque, et bruyamment, sur les chances du joueur écossais. Interviewée en 2020 par Catherine Whittaker du Tennis Podcast, la mère d'Andy Murray, Judy Murray, qui a longtemps été sa coach, exprime ce même sentiment de soulagement. Elle dit « On avait l'impression qu'on pouvait enfin respirer. On l'avait fait, on leur avait prouvé que c'était possible. » Et la journaliste remarque que, sitôt le match gagné, Andy s'était retourné vers le box des photographes de presse, comme pour les défier du regard, comme pour dire « Yep, voilà, vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, peut-être, laissez-moi tranquille. » Federer peut souffler donc, une fois Wimbledon en poche, et puis plutôt deux fois qu'une, puisque en fait maintenant, il sait ce que c'est de gagner un chelem. Il sait gérer l'interminable ascenseur émotionnel du tournoi et de la finale. Il en gagnera quatre autres d'affilée pour devenir le maître incontesté des lieux qu'il est encore en 2008. Aucun adversaire ne parvient à perturber son règne. Navratilova commente, pendant 5 ans, Federer n'a même pas eu à forcer. Il pouvait jouer un tennis de croisière et c'était suffisant. Mais aucun roi n'est éternel et en 2007, le Suisse se sent enfin menacé dans sa citadelle. L'ennemi, Rafael Nadal. En 2005, la France et le monde a vu débarquer en finale du tournoi de Paris, Roland-Garros, un jeune Espagnol de 19 ans, t-shirt sans manches et pantacourt, cheveux longs et biceps gauche surdéveloppés. Il s'agit de sa première participation à ce que l'on appelle aussi les internationaux de France. Pour le jeune homme, pas besoin de tour de chauffe. Première tentative, première victoire, le jeune homme bat en finale l'Argentin Mariano Puerta et s'offre ainsi son premier titre du Grand Chelem. Il renouvelle l'exploit de l'année suivante, en 2006, arrachant à Federer une victoire en 4-7, 1-6, 6-1, 6-4, 7-6. Et puis l'année suivante. Et puis celle d'après. Et puis celle d'après. Entre 2005 et 2014, finalement, Nadal ne perd qu'une seule fois le tournoi de Roland-Garros. Un exploit inégalé. On est alors en 2009, la seule année où Nadal est éliminé. Le Suédois Robin Söderling, jusque-là relativement inconnu, mais depuis rendu célèbre par ce miracle, précisément, sort Nadal en 8e de finale. Le match dure 4-7. C'est la première fois en 5 ans que l'Espagnol perd plus d'un set au cours d'un match joué sur les courts parisiens. Telle est la domination absolue de Rafael Nadal sur la terre battue française. En 2009, eh bien, Federer se frotte bien sûr les mains. Débarrassé de la plus grande et presque insurmontable menace qui pesait sur ses propres chances de gagner le tournoi, il repart de plus belle et obtient son premier et unique d'ailleurs titre à Roland-Garros, cette année-là, en battant lui-même Söderling, qui avait lui battu son rival. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, on connaît l'adage. Nadal domine la terre battue à partir de 2005, mais il ne domine pas forcément ailleurs. Il gagne des matchs, bien sûr, mais en termes de classement, il est derrière Federer. L'Espagnol a grandi sur terre, il s'y est entraîné toute sa vie, il connaît la surface, son jeu en est un reflet. Il frappe très fort, depuis la ligne de fond de court, et il infuse ses coups d'une dose inhumaine de topspin, ses balles rebondissant très haut, difficiles à ramener, car il faut souvent les frapper à hauteur d'épaule, ce qui est plus haut que la hauteur idéale d'impact. Cela pose d'ailleurs des problèmes à Federer tout au long de sa carrière, notamment sur le revers, coup que le Suisse aime plutôt jouer à hauteur de la hanche. En fait, cela pose des problèmes à tout le monde. Pas plus tard que l'US Open 2020, qui a eu lieu cet été, le jeune joueur grec Stefanos Tsitsipas, lui aussi un talent émergent, s'est lamenté en conférence de presse post-match, je cite « Je ne comprends pas comment on peut gagner contre Nadal ». Sentiment partagé par le monde entier, semble-t-il, sauf Federer, au moins jusqu'en 2008. Parce que pour Federer, en fait, il faut comprendre qu'il y a une compartimentalisation possible, au moins au début. Nadal gagne sur terre, bon, d'accord. Son jeu y est né, il a grandi dessus. Il n'est pas forcément transférable sur surface rapide, donc sur gazon. Wimbledon appartient encore aux Suisses. En 2007, cependant, on assiste malgré tout à un premier match accroché entre les deux joueurs. Nadal pousse Federer à 5-7, mais finit par s'incliner dans le dernier, à 2 jeux contre 6. Une nouvelle inquiétude vient assombrir le front de Roger Federer. Le commentateur et spécialiste David Law, qui était chargé en 2008 des statistiques sur le match légendaire, affirme « Et si Nadal gagnait sur l'herbe ? Alors ça changerait tout, absolument tout. Le paysage du tennis en serait bouleversé. » Quelques semaines avant cette fameuse finale a lieu celle de Roland-Garros. C'est ainsi que fonctionne le calendrier du tennis. Roland-Garros est suivi de très près par Wimbledon. Ce sont les deux derniers grands chelems de l'année. À Paris, fait quand même exceptionnel, Nadal bat Federer à plate couture. John McEnroe, alors devenu commentateur pour la télé américaine, ose à peine regarder les images. « Si vous voulez mon avis, là, tout de suite, dit-il, Roger a honte d'être sur le court. » C'est une véritable leçon de tennis sur terre battue que le Suisse de 29 ans reçoit de la part de son cadet. Je vous le disais, le tennis est un sport solitaire, mais c'est aussi un sport très personnel. Les joueurs développent au fil du temps et des matchs des relations souterraines. Ils finissent par nourrir des rancœurs silencieuses et soigner des blessures de guerre invisibles. Pour Federer, il est très clair que la défaite écrasante de Paris, quelques semaines à peine avant Wimbledon 2008, le hante lorsqu'il pose le pied sur le court britannique pour la première fois cet été-là.
Voilà,
c'est tout pour cet épisode de Secret Livré. Je vous le rappelle, c'est le premier opus d'une émission en deux parties. La prochaine partie sera le mois prochain pour donc la nouvelle émission de Secret Livré. On finira en parlant de Rafael Nadal en profondeur, des enjeux du match et du match lui-même, son déroulement, son théâtre, et puis la résolution, si vous ne la connaissez pas encore, donc n'hésitez pas à écouter l'émission. Et puis on parlera un petit peu du passé également, on parlera des autres rivalités qui font que le tennis est un sport aussi passionnant qu'il l'est. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter les récits d'aujourd'hui, et je vous dis au mois prochain sur Radio Campus Paris.